pour ce flash d'information, Alexandra Duboucheron. Et à présent, avec Alex Vizorek, on va regarder dans le rétro de Par Jupiter.
La semaine dernière, dans le bureau de Par Jupiter.
Salut les amis.
Salut Charlie.
Nous voilà au terme de cette semaine de la fine fleur des florilèges.
De gold, florilège.
Mais moi j'ai pas compris là cette histoire de gold.
Qu'est-ce que t'as pas compris?
On a toujours pas invité gold.
Bon alors quoi qu'il en soit, non mais je crois que c'est une belle réussite.
Bon, alors pense. Ça, attends un peu que les auditeurs écoutent.
Alors je pense qu'on a bien bossé.
Ah bah ça c'est sûr, vous deux vous avez tout donné. Hein,
merci.
Non mais attendez, j'ai une idée pour le dernier. On a qu'à inviter gold. Comme ça sera le gold de gold. C'est génial ou pas?
Génial. Je crois qu'on a compris Guillaume, s'il te plaît. Mais enfin, mais t'as saisi le concept des best.
Non,
pas,
très toi, honnêtement, je pense qu'il n'a pas compris.
Oh là là, les jebottes, toi.
Le principe est simple, on reprend les meilleurs invités de l'émission depuis le tout début de toute l'histoire de l'émission.
Et voilà, ça moi j'avais compris. Lynn Renaud, Marthe Villalonga, Raymond Poulidor.
Ouais, tous nos papiers, mamie préférée, quoi.
Et Virginie Efira, pas que, attends, et pour aujourd'hui, je vous propose Franck Dubosc.
Ah bah voilà, un petit jeune qui démarre, c'est bien.
Avec Catherine Yégel.
Eh bah c'est encore mieux, d'accord.
Mais c'est quand même pas de notre faute si les femmes mûres sont les meilleures invitées.
De toute façon, moi on m'écoute jamais pour les invités.
Mais on va quand même pas inviter que des thésards dans notre sociale.
Les garçons.
Ouais.
Bossons un peu sur les florilèges. Oui. On parlera de tout ça la semaine prochaine quand vous chercherez des invités.
Ah bah attends, du coup, moi j'ai une idée déjà.
Ah, enfin.
Capitaine. Bon, c'est Gold. C'est le groupe Gold. Vous avez compris ou pas?
France Inter, vous écoutez les florilèges d'automne, cet espace où la blague débusque les coins à champignons de l'actualité.
Exact.
Toute cette semaine, nous sommes allés rechercher les grands crus de cette émission et des chroniques récentes, encore toutes chaudes comme les braises de l'actualité. Et aujourd'hui, on vous propose de réécouter Franck Dubosc en 2016 et Catherine Yégel en 2017. Mmh. Une émission garantie donc sans la 5G et sans la terrible dictature du wokisme, mais avec déjà à l'époque un peu de zémourisme latent. Ah. D'ailleurs, Catherine Yégel en parle, c'était il y a donc 4 ans, et ça remet les choses en perspective, on va dire. Quant à Franck Dubosc, on l'avait bien sûr entraîné sur les pentes savonneuses d'un sketch où il interprétait Alain Juppé au camping. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charline Vanhoenacker. Moi, j'ai que du 2021 vous proposer de la chronique de qualité. Eh bien, parce qu'elle était estampillée Hippolyte Girardot d'abord. Le groom, il nous parlait des objets qui nous aident dans la vie. Eh bien, le groom, c'est un petit bras articulé qui retient la porte quand elle se referme toute seule. Vous pensez bien que quand il voit ça, eh bien, ça lui inspire une chronique. Christine Gonzalez, objectif lune. Elle nous emmène sur la lune avec des gens de l'au-delà. Thomas Bideguin nous fait du storytelling. On est le personnage qu'on se crée, nous dira-t-il. Et on terminera par la fête de la musique, puisque c'est Frédéric Fromet et le thème de sa chanson, ce sera la fête de la musique. Tout est dans tout.
Je le vois venir. Entrons de plein pied dans cette émission avec Franck Dubosc. C'était donc il y a 5 ans déjà. Oh, il jouait le rôle d'un conseiller Pôle emploi dans un film intitulé Les têtes de l'emploi.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Par Jupiter.
Vous pouvez me le refaire? Jean-Franc.
Franck Dubosc.
C'est beau, merci d'être là.
Je suis Franck Dubosc. Et je t'emmerde.
Et qu'est-ce que ça fait d'être Franck Dubosc?
Par rapport à être Alain Delon.
Ouais.
Hein, Franck Dubosc n'est pas Alain Delon. Franck Dubosc n'est pas Dieu. Non. Souvent, on compare à Dieu. Je suis désolé, mais Dieu n'est pas drôle. C'est une phrase de Martin Matt. Elle n'est pas de moi. Martin, artiste québécois.
Franck Dubosc, votre dernier rôle, c'est dans Les têtes de l'emploi. Un film d'Alexandre Charlot et Franck Magny avec notamment Elsa Zilberstein ou François-Xavier de Maison, entre autres. Il y a aussi Patrick Bouchité qu'on retrouve. Oui. Alex Vizorek est allé le voir.
Mais oui, et on tombe sur 3 personnages un peu bizarres, dont vous, Stéphane, Cathy et Thierry. Et en fait, ils bossent à Pôle emploi et ils sont même contents d'y bosser.
Bah oui, c'est un emploi comme un autre.
Oui, et il se passe après un truc terrible, ils font trop bien leur travail.
Oui, et ils radient trop, ils donnent trop de stages, il y a de moins en moins de chômeurs, ils deviennent l'agence la plus performante qui va fermer parce qu'il n'y a plus de chômeurs, ils vont se retrouver eux-mêmes au chômage.
Et vous, votre personnage, c'est Stéphane, c'est vraiment le... Comment dire le
l'enculé.
Le fonctionnaire carré.
Ils ne sont pas fonctionnaires, hein. Ils le disent, ils le croient, mais ils ne sont pas fonctionnaires. Et oui, c'est le mec qui est... qui est fermé, qui c'est celui qui irradie à tour de bras et sans état d'âme. Je pense que quand il radie un chômeur, c'est il croit le comme on achève un cheval mourant. C'est-à-dire qu'il pense que ça lui fait du bien. C'est une façon de voilà, il le dit, voilà, c'est une bonne nouvelle, vous n'êtes plus au chômage, vous êtes radié. Et voilà, c'est un mec, oui, on découvre que sa vie est pas rose de par ses parents, ses parents vivent à ses crochets, il leur fait verser des acédiques alors qu'ils n'ont pas
Patrick Bouchité qui fait un excellent second rôle de papa.
Qui veut pas travailler, qui me dit, t'as quoi de plus, toi qui travailles, t'as un yacht? Non, bon, bah alors, t'as quoi, t'as rien.
Oui, parce qu'il magouille votre personnage.
Ah, bah oui.
Pour sa famille.
Bah, il magouille pour sa famille, c'est pour le bien, pour la bonne cause.
Et après, il engueule ceux qui magouillent.
Et il engueule.
Non, mais ça doit être chouette à jouer, ce personnage de c'est génial, d'une certaine manière.
Oui, ouais, non, c'est génial, parce que moi j'ai souvent joué des naïfs gentils, et là jouer un méchant, c'était plutôt un méchant sympathique finalement, parce qu'on l'aime bien. C'était agréable.
Vous trois, vous avez dû bosser vraiment. Il y a de la coiffure, il y a de la moustache, il y a du il y a du vestimentaire,
il y a de la lunette.
Ouais, il y a
du col roulé. Ouais.
Est-ce que vous aussi vous avez pris part à ce boulot-là?
Ah bah oui, tout. Oui, les copains aussi, mais en ce qui me concerne, oui, tout, chaque chose a une raison. Moi, je voulais ressembler à un vendeur de voitures dans l'Amérique des frères Cohen. J'avais envie de... C'est pour ça cette moustache, un peu aussi du cowboy Marlboro, comme ça. Le monsieur, tout le monde chez nous a moins la moustache aujourd'hui. À part les acteurs de films porno. Je regarde André en parlant de ça, parce que c'est pas les drocos.
Ou les super branchés.
Ou les super branchés. Mais la moustache que j'ai est pas super branchée, quand même. Et je sais, parce que j'ai vécu 2 mois avec dans la vraie vie, je n'ai pas super branché. Et oui, les gens me regardent en disant « Oh, ça se rase !» Et puis donc voilà, donc j'ai fait le gars, les cheveux à l'arrière, c'était plus technique. J'avais encore les cheveux blonds de camping, donc je voulais un petit peu que ça se voit moins.
Ah ouais, c'est comme une comédie sur le chômage. Et ça, c'est quand même
sur fond de chômage. On dit beaucoup, oui.
C'est-à-dire que ça se moque des sans-emploi,
des institutions.
Voilà, c'est ça.
Ça se moque pas des sans-emploi.
Non, mais ça se moque de tout. Non, je veux dire ça.
De tout. Ouais, ça se moque de tout. Ça, c'est sûr.
C'est couillu. C'est presque pas politiquement correct de faire ça.
C'est politiquement incorrect, c'est sûr. Mais c'est ce qui m'a fait rire, moi, quand j'ai lu le premier scénario, c'était politique. D'abord, c'est du cinéma, donc tout est un petit peu. C'est une fable d'une agence pour l'emploi qui ferme parce qu'il n'y a plus de chômeurs. Ça commence déjà comme une fable, donc déjà on sait qu'on ne va pas se moquer réellement. Mais c'est libérateur de rire, pas de tout, mais de beaucoup de choses.
Mais justement, est-ce que c'est pas français de transformer ce qui peut être tragique en plutôt comique? Il y a pas mal de...
Les Anglais le font aussi beaucoup.
Full Monty
était à propos du chômage, finalement, parce que c'était des chômeurs qui se retrouvaient un autre emploi en devenant un Chippendale. Ça parlait du chômage. C'était très drôle.
Écoutez, c'est une question d'Arménien, donc évidemment.
Non, mais je pense que les Français font beaucoup ça. Je pense que les Belges aussi ont des films très drôles, un peu sombres. Non, mais c'est vrai, ça ressemble à ça. Les frères Cohen utilisent aussi des sujets.
Vous allez dire les frères Dardenne, parce que là, on n'a pas trouvé les répliques. Non, ça manque de punchline.
Là, on est dans autre chose. Là, on est dans autre chose.
J'ai trouvé mon étoile. suivre mon étoile. Et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Je l'ai mis dans un tiroir et j'ai jeté la clé. Et jamais je ne la retrouverai. Aux oubliés, c'est là qu'elle est, qu'elle y restera pour l'éternité. Pourquoi tant de peine? Et pourquoi je n'ai pas eu de peine? La vie m'a causé quelques problèmes, mais j'ai pris le large et maintenant, dans la nuit, je pars et je quitte la maison. Mais tu n'es plus avec moi sur cette terre.
Sur France Inter, vous êtes à l'écoute des Florilèges d'automne de par Jupiter. Et on rembobine la cassette de l'histoire de cette émission pour faire étape en 2016 et retrouver Franck Dubosc. Franck Dubosc qui est notre invité. Aujourd'hui, on va aborder le premier sujet avec vous, parce qu'on change le monde, hein, Franck, donc
oui,
on compte sur
ça,
vous.
Oui.
Bon, là, c'est la chance.
C'est le début, hein, c'est, ouais. On est un diesel, hein, faut chauffer la machine. Alors, l'offre politique aux États-Unis ou en France nous repose la question du vote blanc chez nous. Il bénéficie depuis peu d'une reconnaissance assez symbolique, car désormais on le compte, mais il n'est pas pris en compte, c'est-à-dire comptabilisé véritablement. Le vote blanc peut freiner, pourquoi pas, l'abstention. Heureusement, il y a ceux que les élections, ça excite.
Ça s'est bien passé, ton dîner avec tes voisins hier?
Oui, on a fait une soirée spéciale régionale.
Ah, d'accord, très bien, devant la téloge, quoi, oui.
Non, on a fait une triangulaire. Zéro abstention. Les urnes ont été bien remplies.
Oh, tes trucs dégoûtants, écoute, bon.
Je me suis bien fait dépouiller.
Ça va, ça va.
À côté.
C'est Catherine et Liliane.
Voilà, le monde chante. Prise la main dans l'urne.
Exactement. Alors, tiens, c'est une tribune que nous avons lue, écrite par Mathieu Kassovitz sur le Huffington Post, qui nous dit, finalement, arrêtons d'être passifs devant cette fameuse crise de la démocratie. Les citoyens peuvent agir, militons pour le vote blanc. Celui qui affirme ce vote, je suis contre l'ensemble du système politique. Vous, de quel œil vous voyez le vote blanc, Franck Dubosc?
J'ai essayé de comprendre ce que vous disiez. C'est compté, mais pas comptabilisé.
C'est compliqué, oui, je suis d'accord.
Ça force les gens à venir voter. Bon, c'est vrai, quand on se dit si je vais voter pour voter blanc, est-ce que j'ai besoin d'y aller? Oui. Mais c'est vrai que on ne peut pas se plaindre derrière qu'il n'y ait pas assez de votants. Je veux dire, là, on saura que le peuple s'est exprimé. Voilà. Ouais. Non, c'est intéressant. Je ne savais pas que ce n'était pas compté complètement. Je comprends
c'est
pas
compté,
le
mais il n'y a pas d'impact, en fait.
Voilà,
c'est compté,
ça.
Mais même si tout le monde votait blanc. Il n'y a rien qui est prévu, quoi.
Alors que si tout le monde vote blanc et que c'est comptabilisé.
Voilà.
Ah bah là.
Mais on ne va pas dire que les votes blancs les donnent à un tel ou à un tel, de toute façon.
Non, mais ça invaliderait l'élection.
À partir d'un certain chiffre, on dit que cette élection ne vaut rien et bim, on en refait une autre. Avec d'autres gens.
Par exemple, imaginons 60% de votes blancs, ça veut dire que ceux qui sont élus ne sont pas éligibles parce qu'il y a 60% de gens qui ne seraient pas pour eux.
Admettons un second tour avec deux candidats que vous voulez absolument pas du tout
les avoir. Oui, c'est partout, mais partout. C'est pas que nous.
C'est vrai. Oui, mais alors, donc, on vote contre quelqu'un plutôt que pour quelqu'un.
Ça, c'est...
Et le vote blanc, ce serait une sorte de troisième voie. C'est genre, le vote blanc, il fait, je peux me mettre au milieu, vous voyez.
Notre théorie, Guillaume, c'est que jamais un deuxième tour n'aboutirait.
Oui. Parce que tout le monde... Il y a des chances que tout le monde vote blanc à chaque fois.
Et beaucoup de gens ça serait pas possible, un truc où on écrirait à la main un truc comme à Koh-Lanta?
On élimine des gens.
Il y a quelqu'un qui ferait Christophe, Jean-Pierre, un truc comme ça.
Le bulletin est nul, il est invalidé, malheureusement.
Bah oui, mais tu vois, puis au bout d'un moment, s'il y en a vraiment beaucoup qui ont mis le même prénom, le même nom,
Franck, par exemple.
Ouais, non, mais avec le vrai nom, quoi, de Dardin qui n'est plus dans la liste, quoi, qui n'est plus dans la course.
Nous sommes dans le présent,
Oui.
Maintenant, oui. En cette riante année 2021, et vous nous emmenez au mois de mai 2021, Alex.
Oui, pour Hippolyte Girardot, ce sont les petites choses de la vie qui font les grandes chroniques de l'antenne. Je vous laisse l'écouter.
Tu sais, on dit des Français, ils savent pas parler plusieurs langues, etc. Mais évidemment, il faut qu'ils apprennent l'anglais. Et le français et l'anglais, c'est très loin. Mais si on disait aux petits gosses, vous allez apprendre l'italien, en 6 mois, ils parlent l'italien couramment, ils parlent deux langues couramment. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Tous ces trucs-là qu'on dit là-dessus, c'est une honte.
Et la encore, façon... c'est pas votre chronique, ça. Comment
non, mais c'est vrai. Mais la façon dont on est réglé, la façon
bien,
dont ici, aujourd'hui, on est réglé, c'est affreux. Bon, parce que en fait, je suis énervé parce que.
Ah, voilà.
Voilà.
Ça
mais non, parce que écoutez, parce que.
Attention, moi, je préviens.
Je reviens pas.
À la technique. À la technique, attention.
J'en reviens pas comment les objets peuvent être contre nous, alors qu'ils devraient être avec nous. Non? Vous achetez un briquet, on vous demande d'en choisir un, d'accord? Vous dites, c'est tous les mêmes. Le buraliste dit, ouais, mais c'est la couleur qui change. Vous voulez lequel? Vous dites, moi je m'en fous. Le gars dit, moi aussi je m'en fous. Donc vous dites rouge, et au dernier moment vous dites bleu, parce qu'on est comme ça. Le gars soupire, on lui fait le truc 100 fois par jour, mais il vous donne le bleu. Il l'essaie devant vous, vous repartez avec. Génial. En général, ou vous le perdez dans la soirée, ou il marche plus dès le lendemain. L'objet est contre vous. Directement. Et le pire, c'est que vous ne savez pas pourquoi il est contre vous. C'est comme le péage sur l'autoroute. C'est vrai, merde. C'est fait de telle façon que vous devez vraiment viser pour arriver à la bonne distance du distributeur de tickets. Et si vous êtes trop près, les roues vont racler. Alors vous prenez une marge et bien sûr, vous arrivez trop loin.
C'est tellement moi, ça.
Mais oui, bien sûr, mais c'est pas que vous, c'est tout le monde. Vous vous penchez, mais la ceinture vous bloque. Alors vous enlevez la ceinture. Mais c'est encore trop loin, vous ouvrez la portière. Tant pis, fait chier. Paf! Vous la cognez contre le trottoir de béton qui, à mon avis, est le complice du distributeur. Alors vous arrachez le ticket. Mais parfois, et disons surtout s'il pleut, remarquez bien, le ticket vous tombe des mains, glisse sous la voiture et vous pouvez pas avancer sinon la barrière elle va vous tomber sur le capot, donc vous reculez et en général, c'est à ce moment-là qu'arrive un mec qui vous colle au cul et qui klaxonne tout de suite, parce qu'il est pressé alors qu'il vient d'arriver ce crétin. Alors là vous savez que la journée elle va être niquée et bien niquée à cause de ce salopard de distributeur. Encore une fois, l'objet 1 et vous 0. Mais j'ai découvert un objet carrément champion dans cette guerre sanglante. Le groom. Ce petit bras articulé qui retient la porte et la referme seul. Au départ, un groom, dans l'idée, c'était un jeune type dans les hôtels qui ouvre la porte, portez vos bagages jusqu'à votre chambre, en appuyant lui-même sur les boutons de l'ascenseur. Vous voyez, un service digne de l'époque esclavagiste. Bon, alors, exit l'homme et welcome l'objet. D'accord. Moi, j'y pense jamais, à cet objet, jamais. Mais récemment, j'ai déménagé un certain nombre de cartons d'un appartement à un camion, d'un camion à une cave, puis un garde-meuble, et à chaque fois, à chaque porte, un groom. Alors là, c'était Waterloo. Combien de fois je me suis retrouvé en train d'essayer de garder une porte ouverte pour passer plusieurs cartons dans un ascenseur et de sentir soudain la porte enfoncer sa structure en métal dans mon dos, déjà courbaturé. Obligé de poser la caisse, me retourner, repousser la porte, récupérer la caisse à bout de bras au mépris d'un limbago en pleine croissance pour tenter de la poser sur les autres avant que ce foutu groom, ce salopard de groom, à nouveau accomplisse son œuvre et me presse davantage. Vous pouvez le maudire, l'insulter, il s'en branle. Un bon déménageur, même amateur, est un déménageur mort. Voilà la devise de groom, réglée par un ingénieur qui, au nom du progrès, se venge de portions trop petites de frites à la cantine. Mais parfois, je suis obligé de reconnaître, il rend service. On oublie de fermer la porte et il fait le boulot à votre place. Et c'est un peu le sentiment que j'en ai après avoir vu le résultat des élections régionales. Oui, oui, oui. Beaucoup d'abstention, beaucoup trop à ne pas fermer la porte. Alors c'est le groom qui a fait le taf, qui a dit à ceux qui voulaient entrer quand même, ah non, désolé, ça va pas être possible. Pas cette fois non plus.
Hippolyte Girardot. Ça va, vous êtes pas trop crevé, c'est fatigant d'être Hippolyte Girardot.
C'est le masque qui me fatigue.
C'est plus de votre âge de faire ça, Hippolyte.
Ah, commencez pas, hein, on va s'énerver là.
Merci Hippolyte, mais non. Et on peut vous réécouter en podcast et en vidéo et en spray et en tablette. Alex, je vous propose de regarder encore une fois dans le rétroviseur et de rejoindre Franck Dubosc il y a 5 ans déjà. Nous sommes en compagnie de Franck Dubosc jusqu'à 18h. Profitons-en avec vous ce troisième sujet, un sujet de fond, encore un sujet qui change le monde. Un comédien fauché à Los Angeles avait plein d'idées de jobs absurdes, sauf qu'un jour, il a eu un client, puis un autre. Pour son idée de people walking, c'est promener des gens comme on promène des chiens, mais en parlant donc, c'est l'avantage. C'est un promeneur de promeneurs, si vous voulez. Ils songent même à créer une application, parce que figurez-vous que ça marche.
Ça s'appelle un guide,
non? Non, même pas. Vous allez voir, c'est pour vous accompagner, voilà.
Ouais,
ça. Alors pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule réclamation, il paraît, c'est celle-ci.
Bon, je m'excuse, mais je voudrais poser une question, là. parce que c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Il y a quelque chose de prévu pour leur pas, là? Une roulante, des gamelles
Calmos.
Et où est-ce qu'on va coucher? Bon, j'aimerais parler au responsable. Il y a quelque chose de prévu pour le retour? Il y a une navette? Puis d'abord, où est-ce qu'on est ici? Vous avez des boussoles? Vous avez des cartes? On marche à l'aveuglette. Junior. On risque de s'embourber dans des marais. Moi, je vous préviens, je suis pas client pour le palu.
Alors, qu'est-ce que tu fous, là?
J'ai suivi le mouvement, cette bonne blague. Moi, quand je vois des gens qui marchent, je suis.
Eh oui, Franck Dubosc. Ouais, vous l'avez reconnu, Calmos, Gérard Jugnot. Voilà, c'est un article dans Society et c'est un comédien fauché qui n'arrive pas à finir ses fins de mois. Il avait plein d'idées de jobs complètement farfelus. Et puis un jour, il a eu un client pour cette idée d'accompagner les gens. Alors, c'est souvent pour de la marche. Voilà, les gens lui demandent de l'accompagner pour faire 4, 5 ou 6 kilomètres. C'est source de motivation pour ces gens-là d'être accompagnés par quelqu'un.
C'est vous un dites, promeneur. Pour de la marche. Pourquoi d'autres potentiellement parce que ça existait oui, ça avant. L'idée de passer du temps avec quelqu'un pour d'autres trucs.
Bah, la marche, soit sportive, soit se balader.
C'est des copains quoi. C'est quoi
ouais, les... c'est un copain pour marcher, pour se motiver.
Non, mais parce qu'on sait que pour la santé, c'est bon, par exemple, de marcher, je sais pas, 3-4 km par jour, mais on n'a pas le courage soi. Et alors là, tout à coup, on a un type, et ben il nous fait la causette et on les fait les kilomètres.
Voilà. Alors par exemple, pour les dames.
Ça a l'air de vous déstabiliser.
Là, on fait semblant de trouver ça normal, mais on trouve con aussi.
Alors, faire de l'exercice.
Si vous êtes dans un lac au bord de l'Angleterre et vous marchez avec des petits garçons,
voilà, ça compte.
Oui. Non, mais très bonne question, effectivement, donc pour faire de la marche et aussi pour la sécurité, parce que pour ces dames, parce qu'il est grand, il est barbu,
ah
il est
oui,
baraqué.
Ça devient un garde du corps, c'est autre chose comme job.
Voilà. Ouais. Ça permet d'éviter les sifflets, commentaires désobligeants sur le chemin de la maison.
Ou faire l'amour avec quelqu'un, par exemple. Plutôt que d'être tout seul, t'as quelqu'un à qui parler.
Oui, c'est autre chose, oui. Voilà.
Vous avez des rôles, on vous en donne un. La fin de l'émission, il y a toujours un sketch qui vous tombe entre les mains, que vous ne connaissez pas. Oh, on s'est dit que vous aviez la pêche, la super pêche, alors on vous fait jouer Alain Juppé, qui a envie d'être en contact avec le réel et qui se rend donc dans un camping. Et les deux habitués, c'est Guillaume et André Manoukian.
Oh, à nouveau au camping des Bigorneaux.
Ah, salut la compagnie, Alain est dans la place.
Salut l'ami, comment va?
Alain, t'as fait bonne route?
Ouais, super, j'étais tranquille dans ma Sim Camille avec du Adamo à fond les ballons.
Allez Alain, on se rince le gosier un peu là?
Tu m'étonnes Simone, on n'a qu'une jeunesse. Servez-moi un petit Saint-Emilion 82.
Ah non mon pote, j'ai pas ça mais j'ai du pastis.
Du pastis? C'est une bonne année?
Je sais pas, 51, c'est une bonne année.
Ah oui, ça doit être une bonne année, ça.
Hé, hey, Alain, t'as faim? Tu veux des cahuètes?
Des rillettes? Bordeaux Chanel?
Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
J'ai voulu passer en acheter avant de partir, mais le prix unique était fermé.
Mais dis-moi, Alain, t'es venu pourquoi?
Je dois être honnête avec vous.
Ouais.
Je suis venu pour pécho les gonzesses.
Non, vraiment?
Alors, en ce moment, j'ai un swag.
Ah, le Alain, il perd pas le nord.
Non, mais il perd ses cheveux, par contre.
Les gars, j'en ai parlé à Karine Le Marchand, j'ai eu des périodes un peu fofolles avec les femmes. Hein.
Ah bon?
Bah, ça se voit pas comme ça, mais je suis un petit peu chaud de la bite. Il n'y a pas que mes mocassins qui ont un gland.
Bah, tiens, tu vas pouvoir tester. Tiens, regarde la minette, là.
Salut, petite.
Bonjour, monsieur, on se connaît?
Ah, mais faites pas votre coincette. On dirait une membre du fan club de François. On dirait une membre du fan club de François Fillon.
Mais attendez, je vous permets pas.
Oh là là, les femmes, c'est comme les électeurs, hein. Faut du temps pour les séduire, hein, petite pépé.
Mais c'est toi le pépé. Hein, mais t'es pas mon genre du tout. En revanche, les deux autres. Vous venez?
Ah, carrément, ouais.
Alors, les gars, on n'attend pas Préjus. Préjus. Ouais, c'est Alain Juppé. Le bonheur est dans Alain Juppé.
Oui, il y aura peut-être un Patrick Juppé plus tard.
Qui sait?
Parce que là.
Bah oui.
Il y a des options. Alex, ramenez-nous en 2021. Que proposez-vous maintenant?
Oui, eh bien Christine Gonzalez qui nous ramène systématiquement dans l'au-delà.
Ah, aussi, oui.
Et là, elle s'intéresse à la conquête spatiale.
Alors, les amis, les vivants relancent la conquête de l'espace. Va falloir réagir et vite. Qui est avec moi?
Oui,
si vous voulez.
Il y a Poutine qui est sur le coup, les Américains, la Turquie, la Chine. Qu'est-ce qu'ils veulent? Piquer de l'hélium-3. Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
Non.
Est-ce qu'on va les laisser se faire du blé en exploitant les ressources spatiales?
Non.
Est-ce que la Lune appartient aux vivants, mais aussi aux morts?
Ah oui.
Oui.
Alors, les amis, objectif, Lune.
Oui.
D'ailleurs, est-ce que par hasard, le mec qui a dessiné le Tintin objectif Lune est dans les parages?
Oui.
Hergé, bienvenue. Vous faites désormais partie de l'aventure.
Pourquoi pas?
Bon, maintenant j'aimerais qu'une femme vienne aussi.
Qu'est-ce que tu dis?
Je dis j'aimerais qu'une femme embarque avec nous.
Hein?
Bon, Jackie Sardou, vous venez avec moi sur la Lune.
Oh! Alors ça,
Et puis je pense qu'on aura besoin d'un psy. Jacques Lacan, allez.
C'est impossible.
Venez par là.
Matériellement.
Si, si, regardez, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une navette spatiale, vous inquiétez pas.
Mais il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter.
Non.
Est-ce qu'on s'inquiète, nous?
Non, très bien. Allez, je vous laisse entrer dans la navette. Hergé, ça va? Vous êtes ouvert. Vous n'êtes pas à l'aise?
Oh non, aucun non.
Jacques Lacan, vous pouvez pas lui dire un truc pour le rassurer?
Je ne l'aime pas.
Jacques.
Je l'aime pas, lui.
Te voilà dans le joli drap.
Bon, allez, on y va. Ah, il est où l'embrayage? Ah, voilà. On se met de la musique, les amis? Hum? Ah non, pas mes canaux.
Un jour, j'irai sur la lune.
Non, c'est nul, ça.
Un jour, j'irai.
J'ai demandé à la lune. Ah, de Chine, je supporte pas.
Ah, oui.
Ah, David Bowie, ouais, trop bien, j'adore. Ah, on est bien, Tintin.
Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre, je ne sais pas.
Non, je parlais pas à vous, Hergé. On est bien, Tintin, c'est une expression. Oh, oh, on a un problème.
Qu'est-ce qui s'est passé encore, hein?
Ça clignote.
Qu'est-ce qui s'est encore passé?
Je sais pas, c'est écrit sur le tableau de bord. Vous êtes trop lourd, il faut se débarrasser de 80 kilos.
D'abord, tout ça, c'est de ta faute.
Mais non, c'est pas de ma faute.
C'est le sommet du comique.
J'ai comme une angoisse au creux de l'estomac. Là.
Bon, si c'est comme ça, c'est moi qui sors de la navette. Je vous laisse accomplir la mission sans moi.
Reste.
Oui, ça me semble plus raisonnable que je reste, en effet. Je suis la seule vivante et ça serait dommage de mourir bêtement d'une chute de 380 000 kilomètres.
Oui, je suis d'accord. Oui.
Écoutez, moi, je propose qu'on se débarrasse de vous, Hergé, parce que de toute façon, vous dites rien, vous servez à rien, vous êtes malade. Hein, vous êtes d'accord que je vous éjecte?
Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Je ne sais pas.
Bon, ben moi, je sais. Allez, hop.
Tu n'as pas fait ça.
Eh ben si, j'ai fait ça, Jackie. Allez, faut qu'on avance. N'est-ce pas, Lacan?
C'est une réalité.
Les amis, on arrive sur la Lune. Incroyable.
Faites bien attention, parce que c'est pas ce à quoi vous vous attendez.
Y a pas un truc qui vous étonne?
Pas du tout.
Mais si, regardez, y a pas de drapeau américain.
Hein?
Y a pas de drapeau américain sur la Lune.
Comment?
Regardez, y a un studio photo. Ça veut dire que tous les complotistes qui pensaient que les premiers pas d'Armstrong sur la Lune ont été filmés dans un studio, ils avaient un peu raison. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que le studio est sur la Lune. Ce qui est particulièrement cocasse.
Et pas tant.
S'ils faisaient les choses comme nous, et ben ce serait pas des Américains.
On fait une photo de nous sur la Lune? Il y a un photomaton?
Bien sûr.
Cheese. Bon, c'est quoi le plan maintenant? Comment on fait pour éviter que l'hélium 3 soit exploité par les Américains, la Turquie, Poutine ou les Chinois? J'avais pas réfléchi à ça, moi. Comment on fait pour protéger l'hélium?
Vous non plus, vous avez pas réfléchi à ça pendant le voyage? On fait quoi alors avec l'hélium? Pourquoi on parle comme ça? C'est de pire en pire.
C'est en effet une question à laquelle il faut répondre.
Quelque chose me dit qu'on aurait dû enfiler des scaphandres lunaires. On dégage, on dégage!
Bon, bon, ok les amis. C'est vrai, on n'a pas assez bien préparé ce voyage. Mais c'est pas grave. La prochaine fois, on vient avec une stratégie un peu plus claire. Claire. Vous avez compris, Claire? Claire de lune.
Il y a du sens qui se fait prendre pour le bon sens.
On reviendra plus équipé avec un plan. Motivé, Jackie?
Mon cul, oui!
Oh là là! Vous seriez pas un peu mal luné? Et qu'est-ce que vous faites? Eh oh! Vous n'allez pas m'éjecter? Non!
On l'a perdu!
Bah oui, mais on dit merci qui? On dit merci Jackie et Christine, hein?
Just an old-fashioned kiss. It gets me hot even in winter. How can I resist? Oh, how you tease me. A simple kiss upon my cheek. It makes my knees a little weaker. Your lips are like a spring morning dew on a red rose. Kiss me quick, kiss me hard, make it slow. park. Smooch me up in the taxi and those lingering hugs. You got me in paradise and I'm feeling alone. So much love and you give me those lips. Don't ever stop, but don't stop to kiss me quick. Just as long as you keep me close.
Old Fashioned Kiss, c'était Alani sur France Inter, programmation musicale de Djoubaka. Vous êtes à l'écoute des florilèges de l'automne.
De l'automne, nous sommes en automne, regardez par la fenêtre.
Effectivement, on peut pas se tromper. On vient de quitter Franck Dubosc et maintenant on va poursuivre cette émission en compagnie de Catherine Yégel.
Oui.
Donc deux salles, deux ambiances, je dirais c'est un petit peu la douche écossaise cette émission. Et Catherine Yégel était venue voir en 2017 pour une pièce de théâtre, une pièce de Jean-Claude Grimbert qui s'intitulait « Votre maman ». Écoutons Catherine Yégel, tout simplement.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Voilà des paniers.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue Catherine Yégel. On est ravis de passer cette heure avec vous. Votre maman de Jean-Claude Grimbert. Vous jouez sur les planches avec Bruno Puzzoulou, Philippe Fretin et Paul Rias dans une mise en scène de Charles Torgemann. C'est au Théâtre de l'Atelier. Et Alex Vizorek est allé vous voir.
Je suis allé vous voir. Alors moi j'ai envie de vous jeter des compliments. Mais si c'est moi, on se dit tiens peut-être il passe la pommade. Alors je vais vous lire ce que Le Monde dit. En un instant, Catherine Yégel impose une présence, un personnage, une vie, l'une de nos plus grandes actrices. Ça fait encore plaisir quand on lit ça, non ?
Oui, c'est mieux que le contraire.
Oui.
Non, j'aime bien, mais je les lis pas, moi. Quand c'est mauvais, je les lis.
Alors moi, j'ai une autre critique qui dit une véritable cata.
Non, mais ça existe. Moi, bien j'en sûr. Ai eu des mauvaises et j'en aurai, j'espère. Non,
mais là, vous dominez cette scène, vous êtes le personnage central. La maman, parce que voilà, elle a pas de nom, et le fils qui vient la voir, Bruno Puzzoulou, qu'elle ne reconnaît pas toujours, il vient la voir dans une maison de retraite.
Non, une maison médicalisée.
Ah pardon,
il y a une petite nuance, on meurt plus vite encore en maison médicalisée.
Elle n'a pas tellement envie de mourir, cette...
Si, quelque part, enfin... Elle a un but dans sa vie, c'est de retrouver sa mère. Bon, il n'y a pas 36 000 chemins pour la retrouver, vu que sa mère est morte pendant la longue marche, guidée par des nazis. Mmh. Voilà. Donc je crois qu'elle a envie, mais elle ne le formule pas comme ça.
Et c'est peut-être pas un hasard de l'avoir montée maintenant, cette pièce-là.
Et puis il faudrait la monter toujours. Enfin, oui. Je veux dire, il y aura bientôt, malheureusement...
Mais elle résonne fort, moi je suis allé la voir, on était entre deux tours.
Plus de survivants de la Shoah et plus de grands témoins. Et au train où on va, on a vite oublié. J'en parle parce que Jean-Claude Grimbert a reçu une lettre d'insulte. D'un spectateur anonyme, bien sûr.
Évidemment.
Et voilà, mais...
Qui lui reprochait quoi ?
Qui lui reprochait de parler encore de ça. Mmh. Et comment se fait-il que vous, les Juifs, vous n'arrivez pas à vous faire accepter des pays qui vous accueillent ? Ça, c'est la phrase.
C'est intéressant.
Elle est belle,
oui.
Dans le contexte actuel.
On va avoir l'occasion d'en reparler avec ce deuxième sujet sur la réhabilitation de l'extrême droite, comme le disait Christiane Taubira ce matin en trouvant les mots justes. Et Catherine Yégel, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité, pas pour vos coups de gueule, mais pour les mots, vos mots à vous, justes que vous mettez sur les choses. Premier sujet, la campagne s'achève donc ce soir. On vient de vivre deux semaines dont on devrait se souvenir longtemps, si tout va bien et si la mémoire reste. Deux semaines à cran où le débat politique a rarement été aussi complexe, foutraque, inédit, bordé. Entre envie de crier et personne dans les rues, ou pas grand monde le 1er mai. Et vous, quel est votre bilan de ces deux semaines ?
Ce qu'on a à dire est tout simple, hein. On va dire franchement ce qu'on a sur le cœur.
C'est
tout simple, ça peut se résumer en une seule expression, en un seul mot, assez suffit terminé.
On est à bout.
On est à bout.
Hein, on est à bout, assez, à bout, à bout, à bout, à bout.
On est à bout parce qu'on a trop tiré sur la ficelle et qu'à un moment donné, quand on tire trop, la ficelle casse.
Voilà.
Tout simplement. Hein,
alors on regarde tout à l'intérieur et puis un jour, bah,
et à un moment donné,
ça explose.
Et c'est l'explosion.
C'est l'explosion totale.
François Morel, Philippe Duquesne, l'aide des chiens, bien sûr. Ça résume un peu, ça peut résumer un petit peu la façon dont on se sent aujourd'hui.
Si j'aurais voulu avoir un bouton magique pour que le temps avance plus vite, c'est une tension insupportable.
Oui.
Je n'en peux plus, je n'ai jamais, contrairement à ce qui se dit, j'ai jamais eu aussi peur du Front National que là. J'ai jamais eu aussi honte du nombre de gens qui vont voter Front National. Quand je suis dans la rue, je regarde les gens. Il faut que je me contrôle parce que je dis, elle va peut-être voter. Celle-là, elle a peut-être à voter. Suivant les visages des gens. Donc, il faut que ça s'arrête parce que je vais devenir.
Et puis, on se regarde
d'une misanthropie terrible.
Vous essayez de convaincre les gens, vous leur parlez.
Tous les taxis.
D'accord.
Ah non, parce qu'ils votent, ils votent tous Le Pen. Eh ben, parce que Macron a fait les Uber. Je dis, mais monsieur, faut quand même dépasser peut-être le problème simplement de votre taxi. Pensez à l'Europe, pensez à la France. Non, non, je voterai Marine. Et parfois, je gagne.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, quand on parle avec les gens, alors moi, je suis contente, j'ai réussi à convaincre quelqu'un, je pense, hein, un serveur dans un resto, gentiment.
Qu'est-ce que vous avez dû faire?
En fait, je me suis rendu compte qu'il était chypriote et qu'il avait vécu en Hollande, en Belgique, avant d'arriver en France. Donc, chacun, petit à petit, on peut y arriver en commençant par considérer l'autre. C'est bon de réentendre d'anciennes émissions, je trouve.
Oui. On avait vraiment... des bons invités, on a toujours eu des bons invités.
Mais c'est vrai. Après, c'est aussi bon de revenir parfois dans le moment, dans l'instant, dans ce qui est un petit peu plus chaud, une chronique.
Que des bons chroniqueurs, donc là, on a dû sélectionner un peu de manière plus pointue, et j'ai choisi du Thomas Bideguin pour ce vendredi, car on est dans le storytelling et il nous parle de personnages.
Oh, avec Covidou ?
Oui.
Et c'est à moi, donc... moi je parle de storytelling ici, et parmi les images qui ont marqué le monde du storytelling cette semaine, il y en a deux qui se dégagent particulièrement. La première, c'est celle d'un homme seul aux commandes d'un tractopelle, en train d'essayer de désensabler un porte-container géant échoué en travers du canal de Suez. Alors, on voit la différence entre la taille des moyens mis en œuvre et celle du problème, est saisissante. Et l'autre image, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler la première, est celle de Xavier Bertrand annonçant sa candidature à la présidence de la République. Et là aussi, elle est saisissante, la différence d'échelle. Et voilà, même si par le passé, il a déjà tenté de désensabler des objets de taille moyenne, comme François Fillon par exemple, ou même des plus gros machins comme Sarkozy ou les Hauts-de-France, on se dit que là quand même, face à ce très gros bateau, il n'est pas forcément très bien équipé. Mais il y va quand même, parce que dans le monde du storytelling, ça marche comme ça, on est le personnage qu'on se crée. Dans sa pièce, six personnages en quête d'auteur. Luigi Pirandello, que citait hier sur France Culture le metteur en scène Emmanuel de Marcimota. Eh bien Luigi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dire au personnage du père, il fait dire, nous voulons vivre. Oui, mais nous voulons vivre comment? Nous voulons vivre en vous. Et c'est bien ça ce que nous propose Xavier Bertrand. Parce qu'il dit qu'il annoncera son programme plus tard. Il n'est pas scénariste, il n'est pas non plus encore personnage pour l'instant, il est juste acteur. Et quel acteur ? Quel acteur ? On dit qu'il a pris 10 kilos pour jouer Gérard Larcher bébé. Non. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'est même pas écrit.
Bien sûr.
Voilà, ça m'apprendra. Et donc, quel acteur, il veut vivre en nous. Voilà, le problème d'un acteur, quand il entre en scène, c'est de se positionner dans le vide. Il faut lui dire à Xavier Bertrand que sur le sécuritaire, par exemple, on n'est pas vraiment dans le vide, on est déjà un peu dans le trop-plein. Les élections sont dans un an et on peut gager que l'année qui vient nous apportera, comme la marée, son lot de coquilles vides, son lot de personnages en quête d'auteurs, et à nous de leur prêter vie. Et comme ça, on saura qui l'année prochaine viendra à son tour raboter la Convention de Paris sur le climat. On saura qui viendra l'année prochaine s'occuper d'endiguer la cinquième vague. Qui prendra à l'aveuglette les mesures du sixième confinement. Qui brassera du vent. Qui fera le tri. Qui soignera les loques. Mais attendez. Du vent, du tri, des loques.
Mais
je crois,
mais non,
quoi, quoi, pas, je crois pas. Que j'ai le candidat idéal.
Non, mais non.
Bon.
C'est Covidou.
Mais c'est Covidou. Oh. Ben alors, toi aussi, Covidou, tu aimerais bien te présenter à la présidence. Toi aussi, tu es un personnage en quête d'auteur.
Enquête d'auteur. Ben, enquête d'auteur, je te rappelle que j'ai ta main coincée dans le dos. Je suis plutôt en quête de liberté, moi.
Ah ben, de liberté, mais alors tu es de gauche, Covidou ?
Ah non, moi je suis ni de gauche, ni de droite, comme tous les mecs de droite.
Ah oui, tu as quelque chose à nous dire quand même ? Oui.
Libérez Xavier Bertrand ! Libérez Xavier Bertrand !
Mais enfin, il n'est pas encore en taule, Xavier Bertrand.
Oui, pas encore, mais il est candidat à Les Républicains. Normalement, c'est une étape dans une carrière à droite.
Ah bon, mais alors tu crois, toi, que c'est comme ça, que la pièce est déjà écrite, c'est ça ?
Ben quoi, t'as pas lu Aragon ?
Ben si, mais toi, Covidou, toi, t'as lu Aragon ?
Mais moi, je t'emmerde.
Covidou, mais Aragon, il disait, c'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table.
Ah ben oui, ça correspond un peu à la situation.
Voilà, mais la pièce était à l'ou non drôle. Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien.
Eh ben, mon vieux.
Ben ouais, comme tu dis, j'ai l'impression que cette fois-ci, mon vieux Covidou, si on veut s'en sortir, il va nous falloir un peu plus qu'un tractopelle.
Thomas Bidgaï, Covidou,
qu'on peut revoir, mais je vous en prie, Covidou, qu'on peut revoir bien sûr sur notre page Facebook en vidéo, pour tous les enfants.
Et sur la chaîne de Covidou. Hein.
C'est un bon plan pour les ventriloques.
Le masque, oui, voilà. Évidemment. C'est bien pour ça que je m'y suis mis. On n'aurait jamais plus la chance comme ça de pouvoir faire de la ventriloquie avec un masque.
Parce que sans masque, on le voit un petit peu. Oui, on le voit un petit peu les trucs et ça brise un peu la machine.
Merci Thomas Bidguin.
Et si on revient 4 ans en arrière, dans l'histoire de cette émission, Alex, on retrouve bien sûr Catherine Yégel, avec qui on discute depuis quelques minutes. Et on avait abordé un thème relatif à l'extrême droite. Écoutez bien, déjà à l'époque, évidemment, elle parle d'Éric Zemmour.
Qui ?
Monsieur Zob, on va dire.
Voilà.
Ce qu'il est devenu, en tout cas. Et non, ça remet les choses en perspective, en réalité.
Mais c'est intéressant.
Catherine Yégel, on va aborder ce deuxième sujet avec vous, qui ramène aussi au thème de la pièce « Votre maman » de Jean-Claude Grimbert et au thème de la mémoire. Ce deuxième sujet, c'est comment avons-nous laissé le Front National devenir un parti prétendument normal ? Le Monde a relevé tous ces épisodes contre lesquels on ne s'est pas assez indigné, levé, comme le refus par un maire de droite d'enterrer un bébé rom ou remettre un prix au maire FN de Hénin-Beaumont. Alors nous, on a une astuce pour rester vigilant, un truc qu'on garde en tête pour rester en éveil, qu'on a diffusé plusieurs fois cette semaine. On continue, on le partage une nouvelle fois avec vous.
La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National.
Allez, levez les doigts.
Plus jamais de 20%, plus jamais, nous serons toujours contre.
C'est ça, le mouvement de la jeunesse, le mouvement de la jeunesse.
Nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes.
Non,
et
deux,
ensemble, nous sommes de la dynamique.
Les Berruriers Noirs, dont le guitariste a dit hier qu'il voterait Macron contre le FN, comme quoi Macron est punk, on l'avait pas vu, c'est dingue. Alors, ce matin, Christiane Taubira a utilisé un mot qui nous a semblé très juste, l'extrême droite avait été réhabilité, parce qu'on entend souvent la banalisation, la normalisation, mais réhabilité, c'est encore un autre vocabulaire, et faire l'effort déjà de mettre les mots justes, c'est déjà un moyen de lutter, les mots justes, la mémoire, Catherine Yégel.
Oui, sûrement, mais moi, j'ai jamais compris pourquoi ce parti-là n'était pas interdit. J'ai jamais compris. Je pense que ça servait les politiques, en premier Mitterrand, et c'est dommage. Et j'ai jamais compris, à partir du moment où c'était un parti xénophobe, je n'ai jamais compris pourquoi ce parti restait légal. Alors, vous voyez que ça part de plus loin, moi. Je veux dire, je ne comprends toujours pas, je comprends pas qu'il y ait des jeunes et tant de jeunes qui vont voter Front National. Si, je peux comprendre, analyser la détresse, le chômage, je peux analyser tout ça, l'abandon dans les quartiers.
Le dégoût des politiques qui
le dégoût des politiques, etc., qui sont passés le pouvoir. Mais je veux dire qu'on leur donne pas une autre façon de rebondir et de retrouver de l'espoir, c'est terrifiant. Et encore une fois, moi, je suis pour l'interdiction du Front National. J'ai un garde du corps en sortant.
Vous vous inquiétez pas, on partage notre point de vue.
On l'a déjà dit, c'est pas, je suis là.
Peut-être notre tropisme belge, mais on partage ce point de vue. C'est ce que disait Christiane Taubira ce matin, parti anti-républicain, anti-démocratique aussi. Que faire pour rester vigilant? Parce que la mémoire, elle s'efface. C'est d'ailleurs le thème de la pièce, votre maman. Il y a les jeunes générations qui ont pas forcément connu 2002, qui ont pas forcément un grand-père ou une grand-mère qui a connu la guerre, etc. Parce que quand on voit le monde a vraiment listé toute cette série de choses, enfin ce bébé qu'un maire, bébé rom qu'un maire a refusé d'enterrer dans son cimetière parce que évidemment les impôts locaux ils les ont pas payés les gens, hein, bon, le fait que Éric Zemmour ait droit à la parole sans arrêt, je sais que ça c'est des choses qui vous hérissent.
Oui, mais
aussi,
que faire pour rester vigilant, que faire pour conserver la mémoire? Bon, si on part de plus loin, il y a la famille. Il y a la transmission, il y a l'éducation nationale, il y a la littérature, et pardonnez-moi, il y a aussi, pas ici bien évidemment, mais les médias. Les médias, on a ouvert à Monsieur Zemmour un micro pendant des années, on continue à lui en ouvrir un. Je veux dire, il y a les médias. Les médias qui se sont fait du buzz en invitant Monsieur Philippot, etc. Je ne sais pas combien de fois j'en pouvais plus, moi. Comme s'il n'y avait rien d'autre dans le paysage politique. Que faire pour conserver la mémoire? Il y a des moyens.
Et quand vous dites la famille, c'est exactement le thème de la pièce, et en l'occurrence la fin qu'on ne dévoilera pas, mais c'est ça qu'elle veut lui laisser à son fils, qui pour finir est moins à fleur de peau qu'elle sur ce passé.
Mais forcément, puisqu'il ne l'a pas vécu. Mais en même temps, il le sait.
Oui, mais comment lui va le léguer à ses petits-enfants? Parce que c'est peut-être là le chaînon qui...
Ben voilà, c'est pour ça qu'il y a cette transmission. Et c'est pour ça qu'elle lui a raconté son histoire, et qu'il la sait, il le dit à un moment donné. Mais donc je suppose que ce fils va continuer. Bon voilà, mais c'est ça la transmission.
Et la transmission, c'est aussi toute l'œuvre de Jean-Claude Grimbert.
Bien sûr,
le thème qui transcende.
Mais pas que de lui. Enfin, je veux dire, c'est important. Il y a des enfants qui connaissent pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ni de la Première d'ailleurs.
Nous sommes vendredi, oui. Là c'est donc le jour officiel de la venue de notre barde.
Frédéric Fromet, qui à chaque fois qu'il prend sa guitare, fait la fête à la musique. Et cette fois, la thématique de sa chanson, c'est la fête la musique.
Alors, bien, on connaît la formule, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd.
Aïe.
Oui.
Mais lundi, ce sera la fête de la musique.
J'en étais sûre, j'en étais sûre.
Et il vaut mieux être sourd que d'entendre ça. La fête de la musique, ça fait mal aux oreilles. Ça donne envie d'appeler les flics pour tabasser les ménestrels. C'est aussi naze que taratata. Faites du bruit et n'oubliez pas les paroles. C'est aussi nul qu'un poème de Booba, fils de pute, ou une tournée de Jean-Luc Lahaye dans les écoles. C'est comme si pour ton anniversaire on t'offrait un concert de Vianney. Voilà, c'est comme si ta bouilloire ou ta théière sifflait l'intégrale de Benjamin Biolay. La fête de la musique, aux oreilles ça fait mal. Ça donne envie d'appeler les flics, pareil qu'ils visent bien avec leur flashball. C'est aussi naze qu'un concert des enfoirés. C'est dégueulasse pour les restos du cœur. C'est aussi flippant que de se trouver bloqué avec Calogero dans un ascenseur. C'est comme si Trio et Sinse Milia jouaient du djembé toute la nuit sous tes fenêtres. C'est comme si Damien 16 emménageait chez toi pour te chanter en boucle son mal-être. On va tous crever. La fête de la musique, ça fait mal aux esgourdes. Ça donne envie d'appeler les flics pour qu'ils sévissent à l'arme lourde. C'est du délire, comme si une fois dans l'année Eddie de Préto se mettait à sourire.
Merci, c'est la fin de cette émission.
Même pas en rêve, comme si avant de chanter
arrêtez,
Pascal Obispo apprenait à écrire.
On peut lui couper le micro, hein.
C'est pas marqué dans les livres. C'est comme si pour consoler un bébé,
on est désolé,
on lui passait la voix de Grand Corps Malade ou une chanson de Julien Doré. qu'on a croisé dans l'ascenseur. Il y a de quoi partir faire le djihad. La fête de la musique, ça fait mal aux oreilles. Ça donne envie d'appeler les flics, sinon t'es bon pour l'ORL. La fête de la musique, c'est comme si le vendredi soir, on entendait sur service public une casserole avec une guitare.
Oh mon Dieu.
Merci.
Pas merci. Non, pas merci, Frédéric Fromet. Pas merci.
C'était bien.
Aïe, 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 j'avais oublié à quel point c'est strident.
Oui, 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 et on va encore se faire des amis. Frédéric Fromet.
Et nous arrivons à la fin de ces florilèges d'automne.
C'était bien sympa.
C'était formidable de réécouter toutes ces anciennes émissions.
Oui, on n'a pas vieilli.
Non, ne plus faire les mêmes erreurs.
Pas sûr.
Bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce comparatif.
Oui, oui.
En tout cas, lundi, on va se retrouver en direct avec toute la troupe pour glisser sur le toboggan du LOL.
Jusqu'à la présidence.
Je ne sais pas, on verra. En tout cas, merci beaucoup à toute notre équipe qui prépare cette émission. À la programmation, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Mathias Volant et Emma Poésie, à la rédaction en chef Ramzi Assadi, à la réalisation François Audouin, programmation musicale Djoubaka, et aujourd'hui à la technique Vincent Désière. Eh bien, je vous dis à lundi.
À lundi.